Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je suis remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tommy Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 70e Instant Sport avec des émissions qui se suivent et qui se ressemblent, beaucoup de matchs annulés ce week-end. Et l'un de nos chroniqueurs qui a marqué son premier point dans les pronostics sur le match Paris-Monaco, nous verrons ça en fin d'émission. Salut Laurent, on laisse le suspense, c'est peut-être toi qui as marqué ce point.
Salut, bonjour tout le monde.
Non, je crois pas.
Non mais on c'est sait
bon.
Pas.
Non, on a dit c'est pas moi. Alors, une minute près c'était moi.
Alors Laurent, je préfère te préciser que nous ne parlerons pas du match de vendredi. Après les 55 SMS que tu m'as envoyé durant tout le week-end, les photos de Rolando et compagnie, ça suffit. J'enchaîne avec toi Patrick, on est d'accord, on ne parle pas de vendredi. Moi qui n'avais absolument rien dit quand au match aller Montpellier avait gagné 3-1 contre Marseille, but de Mounier et doublé de Boudebouze. Salut Christ Patrick.
Rousse. Salut à toutes et à tous et ouais, tu as remarqué, j'ai été soft, j'étais pas harcelé, je l'ai joué modeste quand même.
J'ai vu ça le soir, je me suis dit, ils sont sympas avec moi, et après je me suis dit, sauf que Laurent devait regarder NCS, il l'a pas vu, peut-être demain matin, et bim, allez, c'était parti.
Enfin, les fesses rouges que tu avais, c'est génial. Oh,
c'est rouge, allez, ça, on passe, à, s'il te plaît, laisse-moi dire bonjour à Julien, ça y est, après ton bon pronostic de la semaine dernière, tu rentres dans le rang, on se calme.
Oui, ben bonjour à tous, oui, bon. Certains me taxeront peut-être d'avoir eu la chance du débutant, mais peut-être que la grippe que j'ai contractée la semaine dernière m'a pas permis de marquer un point, mais je reste optimiste pour le reste de la saison.
Bon, ouais, t'es deuxième au classement, hein. On fera un point tout à l'heure, t'es pas largué, contrairement à certains. Salut Aurélien, donc c'est peut-être toi, on sait pas, qui a trouvé le bon résultat.
Bonjour à tous, peut-être suspense, j'espère que tu as fait un son pour cette grande occasion.
Ah ben bien sûr, on va réécouter, mais plein de sons, il y a plein d'actualités, j'ai récupéré plein de sons d'anciennes émissions. Alors il faut savoir, je le dis à nos auditeurs, pour actualiser la photo l'Instant Sport, on a décidé de mettre des maillots chacun de sport pour cette émission et Aurélien a choisi l'équipe Décathlon.
Voilà, mais j'ai trouvé un maillot de basket dans mon tiroir qui me restait, donc c'est un maillot tout à fait neutre, blanc.
Décathlon.
Voilà.
Non, mais ton tiroir, c'est là où il y avait les mini-fours l'autre fois aussi, c'est ça?
C'est
bon,
ça.
C'est ta voiture. C'est quoi. Ça. Ok, d'accord.
C'était dedans.
Bon, là, j'avais un beau maillot du basket Cosmandois floqué à mon prénom et tout, et tu devais m'envoyer un message pour me rappeler de le prendre, ce que tu n'as pas fait.
J'ai envoyé un message.
Et du coup, effectivement, j'ai...
Peut-être un peu tard, mais j'ai envoyé un message.
Je l'ai reçu, c'est vrai.
Oui, mais Aurélien aussi, mais il te dit ça, mais il dit ce qu'il arrange.
C'était vers la mi-temps du handball, non?
C'était à la mi-temps du handball, voilà, parce qu'avant, je regardais ce formidable match. Tout le monde l'a vu, d'ailleurs, ce match, Laurent?
Oui, bien sûr, évidemment. Oui.
Julien?
Oui.
Oui, bon, on va en parler longuement, alors. En attendant, alors, les matchs de ce week-end en rugby, match remis entre le RCML et l'UNEL, mais comme beaucoup d'autres matchs de ce week-end, donc le RCML n'est pas spécialement lâché. Seules 4 équipes ont des matchs de plus. Ça y est, on rentre dans la période compliquée pour les sports de plein air lausériens, Patrick. Ça va commencer.
Surtout avec ce qui s'est passé cette semaine, en particulier jeudi. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait quand même pas vu ça à Mende, autant de neige. Donc, fort logiquement, tous les stades ont été fermés par la communauté aux communes, y compris le synthétique, hein, Laurent.
Oui, c'est ça.
Hein, donc, au Cosse d'Oge, les deux pelouses et le synthétique, Roufiac, Badarou et le chapitre. Je pense même l'annexe du chapitre aussi. Donc, tous les stades étaient fermés, ce qui paraît totalement logique, parce que même si la neige a fondu, vu l'eau, tu fais jouer un match de rugby dimanche, ben voilà, je pense que la pelouse, tu pouvais lui dire bye-bye.
Est-ce qu'on reviendra sur la petite polémique que nous a créée le district Gare-Lozère suite
la Ligue, genre.
C'est la Ligue
ouais. Ah ben oui, bien sûr, ouais. On va y revenir. On y revient de suite,
allez.
Là. Allez, tu veux qu'on y revienne de suite?
Allez, vas-y.
Allez, c'est parti. Polémique. C'est jingle polémique. Polémique, Laurent.
Non, c'était bon.
Explique-nous un peu.
L'info est arrivée lundi dernier, à la fin de notre émission, ouais. Comme quoi le match de Marvejols Sport à Rousson avait été donné perdu à Marvejols, sachant que Marvejols ne s'était pas déplacé ce jour-là, quand on sait les conditions météo qu'il y avait eu le week-end d'avant. Et donc c'est tout à fait scandaleux, évidemment. Et puis
un article dans la Lozère Nouvelle du président
l'article, ouais.
De Marvejols Sport.
Et donc quid des autres équipes qui ne sont pas déplacées, donc à savoir Badarou, l'AFL2, il y a que le Buisson qui s'était déplacé ce jour-là. Bon, il faut savoir que le Buisson, ils ont l'autoroute juste devant la porte. Et
ils n'ont jamais peur, le Buisson, en plus.
Bah, ils conduisent sur la neige 10 mois par an aussi. Mais enfin, eux, ça se comprend, ils ont pris l'autoroute qui était déneigée.
Il va avoir des problèmes.
Non, ce n'est pas un problème. Ils ont l'autoroute, c'est normal. Donc petite polémique qui a enflé, puisque certaines équipes n'ont pas compris pourquoi certains clubs se sont déplacés et pas d'autres. Et voilà, donc c'est dommage que le district Garloser et la Ligue n'arrivent pas à comprendre qu'en Lozère, il neige au dernier moment, la nuit de samedi à dimanche. Et voilà.
C'est surtout que c'est question de sécurité, qu'on enlève des points, c'est pas très beau, Patrick. C'est ce que disait le président.
C'est pas très
je vais sport, pas prendre de, faire prendre de risques à mes joueurs, bien entendu.
C'est un vieux problème qui touche le sport mandois en général et le football en particulier. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans ce département et ça fait 17 ans que j'entends parler de ce problème. Alors, c'est vrai qu'il y a de multiples exemples au fil des années où on se rend compte que il y a une règle qui est appliquée à la lettre quand il s'agit d'un club lozérien. Et cette même règle, on peut se rendre compte qu'elle est un peu, voire même beaucoup plus souple quand c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire quand des clubs, en particulier du Gard, mais pas seulement, font le déplacement en Lozère. Et je pense que là, on est vraiment au cœur du problème. Alors bien sûr, les instances diront que, bien évidemment, tout le monde est jugé sur le même pied d'égalité, mais on peut s'en rendre compte avec... Bon, il y a ces histoires de matchs perdus quand on se déplace pas, mais on ne se déplace pas, mais on peut dire aussi le mercredi. C'est-à-dire que ça gêne pas de mettre des matchs le mercredi à un club lozérien qui faut qu'il se déplace, voilà, y compris les jeunes, hein, puisque c'est déjà arrivé. Laurent, tu me contrediras pas, et Julien non plus. Il y a des équipes de jeunes de l'AFL, des matchs de coupe en retard, où ils ont été obligés de se déplacer le mercredi. Et c'est quasiment jamais en sens inverse. On ne verra jamais un match en Lozère avec un club du Gard où on fera déplacer un club en milieu de semaine. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Donc ça crée tout un tas de crispations. Et donc, pour le moment, le district, je pense, n'a pas statué. Donc au niveau de la FL2, on ne connaît pas la décision. Mais donc c'est la Ligue, par contre, la Ligue du Languedoc-Roussillon.
On ne connaît pas la décision, mais les équipes gardoises mettent bien la pression sur leur district.
Tu fais bien de le dire. Et donc, c'est la Ligue qui, elle, a déjà statué et donc a donné match perdu à Marvejols, puisque comme Marvejols est en DHR, c'est un championnat qui est géré par la Ligue directement. Alors que la PHEA, district gardoisien, bien sûr, est géré par le district. Donc on peut se mettre à la place du président de Marvejols qui est dans tous ses états, à juste titre. Et donc le président Laurent, lui aussi, quand même, a répliqué en mettant une certaine pression. On ne sait pas comment ça va tourner, mais c'est vrai que, bon, c'est pas... Et voilà, il y a une règle qui a piqué, on n'en discute pas, et c'est ça qui est le plus gênant, quoi.
Mais surtout, donc la Ligue a décidé donc de donner match perdu à Marvejols, la Ligue gère ça, mais... Est-ce que la Ligue gère bien ça? Puisque Marvejols, dans un premier temps, a quand même eu, entre guillemets, la gentillesse d'inverser le match qui devait avoir lieu à Marvejols à la base. Et il y a eu cette volonté de la part de Marvejols de déplacer le match à Rousson pour qu'il y ait match, pour justement pas pénaliser les équipes. Puisque bon, c'est le mauvais temps qu'il y a eu en Lozère.
Sachant que le terrain allait être impraticable à Marvejols, oui, voilà, mais il ne savait pas encore que la route le serait aussi.
Voilà, après on n'est pas tributaire de ce qui peut se passer sur la route. Alors après on entend dire oui, mais bon, pour nous, hein, puisque le même week-end on devait aller à Vauvert, et nous aussi on devait recevoir Vauvert, mais dans cette volonté aussi de jouer, Maxime avait inversé le match pour qu'on aille à Vauvert. Alors on a entendu dire oui, mais il n'y avait pas d'arrêté municipal à Vauvert. Et je pense que si on pouvait mettre des arrêtés municipaux sur la route, il y en aurait eu tous les kilomètres. Parce que voilà, on s'est renseigné de notre côté, on savait que la route était compliquée. Et bon, on n'a pas envie forcément d'aller se tuer sur la route pour un match de PHA. Et par rapport à ce que je disais au début aussi, là où la Ligue gère, je pense, pas très bien la chose, c'est que les féminines de l'AFL devaient se déplacer à Lunel aussi ce week-end-là. Et elles ont eu match reporté. alors que c'est la Ligue aussi qui gère ça. Et donc c'était le même week-end que Marvejol. Marvejol a match perdu, mais les féminines de la FL ont match reporté. Donc qui prend les décisions à quel moment, je ne sais pas, mais il y a quelques zones d'ombre.
C'est pas très cohérent, en effet. Ouais.
Non, mais c'est un vrai problème. Alors après, comme tu le dis, les clubs du Gard, ils ont bon dos de dire seulement du Buisson, mais il y a aussi les U15 de la FL qui se sont déplacés. Mmh. Alors voilà, tu vas sur n'importe quel site internet, sur tous les réseaux sociaux, c'est le premier truc que tu vas voir, c'est ça. Ouais, mais bon, alors expliquez-moi comment les U15 peuvent se déplacer et la réserve ne se déplace pas, alors qu'ils jouent tous ce jour-là aux environs de Nîmes.
Ben, disons que voilà, les U15,
donc, bon, c'est toujours la même chose.
Risque, voilà, exactement. Risque, tout à fait. Et bon, ça c'est bien terminé pour eux puisqu'ils sont revenus sans incident. Mais
heureusement,
on s'en réjouit. Et moi, j'ai envie de mettre un carton rouge à cette ligue de football. Voilà, bim.
Allez, le semi, tu as raison. Ça vient du fond du cœur.
Cette ligue et puis ce district, parce que je sens bien qu'ils vont nous la mettre aussi à nous, les clubs lausériens.
Enfin, d'un côté, ils acceptent les clubs lausériens parce qu'il y a dans certains sports où la ligue de l'Hérault ou du Gard, voire de l'Aveyron, les refuse, hein, comme au basket, où ils sont tous seuls à jouer contre eux.
Mais ils acceptent parce que, bah, parce que financièrement, ça leur apporte quelque chose aussi, quoi.
Mais c'est vrai que on en revient toujours à la spécificité de ce sport lausérien.
Et dans toutes
les ligues, dans tous les sports, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux poids, deux mesures dans le traitement qui est fait aux équipes lausériennes et aux autres. Donc, c'est vrai que c'est pas très normal et ça commence à être un peu dérangeant.
Qu'à la prochaine assemblée générale, il va y avoir quelques interventions musclées de nos dirigeants lausériens envers cette fine équipe gardoise.
Ça serait mérité.
Et Roltaise.
Bien sûr, ça sera mérité. C'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Par exemple, le match contre Cournon, on parle du CFA2, donc c'est géré directement par la fédération. Donc Cournon ne jouait pas, la FN ne jouait pas, donc il aurait été logique que le match soit reprogrammé ce week-end, même si après forcément il aurait été annulé. Mais il n'a même pas été reprogrammé parce que, moi c'est ce qu'on m'a dit, alors je ne sais pas si vous confirmerez ou si j'ai eu une mauvaise info, mais on m'a dit que Cournon n'avait aucune envie de jouer ce week-end-là à Mende. Donc on se rend bien compte qu'il y a des clubs, et là on est au niveau au-dessus, puisque c'est le CFA2 est directement géré par la fédération. Donc la fédération contacte les clubs en disant voilà une date libre, et donc on en dit non, on va pas ce week-end-là pour X et quelques raisons, et puis la fédération du coup dit ben ok, on reprogramme pas le match ce week-end-là, et puis après tu descends à l'échelon en dessous et tu as match perdu pour Marvejol parce qu'un jour où c'était la folie sur les routes, ils sont pas descendus. C'est vrai que tout ça crée quand même beaucoup de bordel et on voit mal, il n'y a pas de cohérence dans les décisions, et c'est ça qui fait le plus de tort.
D'accord, ça crée beaucoup d'incompréhension. Ouais. Cournon avait galette des rois ce week-end, c'est pour ça.
Voilà, peut-être.
Alors j'ai fait un tour du côté du complexe. Non, pas encore. Du complexe là, ce dimanche, les terrains sont complètement trempés.
Gorgés d'eau.
Alors je sais pas comment ils vont pouvoir jouer d'ici à quelques semaines si ça se dégage.
Heureusement que ce week-end qui arrive.
Ils vont à Borgo en Corse
le dimanche.
Oui.
Et le rugby va aussi à l'extérieur, donc au niveau du chapitre, je pense que c'est tranquille jusqu'à pour ce week-end. Quoi.
Oui. Alors après, s'il reneige ce week-end, ça va être la cata.
Ça, mais bon. c'est autre chose.
Ok, alors j'en étais où donc? En football, plusieurs matchs reportés, on vient de le dire, celui de la FL, celui de Marvejol reporté. Le NL, j'ai pas de nouvelles, mais j'imagine c'est encore plus compliqué
tout
pour
était,
eux.
Tout était reporté, ils avaient annulé l'intégralité de la journée, la Ligue d'Auvergne.
Voilà, et donc le Buisson a pu jouer, mais finalement a perdu 4-0 à Caillargues, donc ça aurait été mieux qu'il joue pas.
C'est le seul match, c'est la seule équipe de foot lausérienne qui a eu son match. Qui a pu jouer son match.
Voilà, et donc les féminines, tu nous en parlais, une info donnée par Sport Mende de notre ami Julien. Elles sont allées chercher un bon match nul de partout à Millau, donc c'est pas Millau, Aveyron.
Millau du Gard.
Millau du Gard, une équipe toujours invaincue. En DHR, tu les as vues jouer depuis le début?
Oui, je les ai vues jouer deux fois en 2017. La première fois, c'était contre Castelnau, là, il y a un petit mois. Elles avaient gagné 2-1. Et la semaine dernière, elles recevaient les leaders. Qui était Morin. Et en arrivant au stade, si on ne sait pas qui est l'AFL et qui est Morin, eh ben, on pouvait avoir le doute parce que cette équipe de l'AFL qui donc est promue, qui redécouvre un petit peu ce niveau ligue après avoir passé 3-4 ans en niveau district, commence, j'ai l'impression, en 2017 à prendre la mesure de ce championnat. Et la confirmation hier, donc avec ce bon match nul 2-2, puisqu'elles ont pris un but, elles se sont fait égaliser à 2-2 à 10 minutes de la fin.
Donc, elles avaient fait quoi contre Morin?
Elles avaient perdu 1-0.
Perdu 1-0
sur l'une des rares occasions de Morin, alors que l'AFL avait dominé le match la plupart du temps. Mais j'ai l'impression quand même, donc sur les deux matchs que j'ai vus à domicile et sur le score de hier, c'est plutôt encourageant pour le reste de la saison.
D'accord, ouais, c'est bien.
Buisson était la seule équipe masculine.
Masculine, oui.
Je reprends, voilà. Puisque c'est vrai que les filles ont aussi pu avoir leur match. Et tu parlais de niveau district, c'est même.
Oui, c'est Lozère.
Voilà, elles sont directement passées du championnat DDFL.
Oui.
Donc, qui est une des plus développées de la Ligue Languedoc-Roussillon en nombre d'équipes, parce que souvent dans les autres départements, c'est beaucoup de football à 7, alors que la Lozère a 8, 9, 10 équipes, ça dépend les années, de foot à 11. Ouais. Donc, c'est un des championnats les plus développés au niveau du foot féminin senior. Et donc, elles sont passées directement de ce niveau-là au niveau Ligue. Bon, c'est vrai si on revient, comme tu dis, à 4-5 ans en arrière, c'était déjà le cas. Et donc, il y a deux équipes, puisqu'il y a une équipe 2 qui évolue toujours au niveau des DFL.
Oui, bravo au foot féminin lozérien d'avoir autant d'équipes, autant de dynamisme. Hein, c'est dynamique
ouais, en Lozère. C'est vrai qu'au niveau du football féminin, la DFL est moteur au niveau du district Gard-Lozère, mais aussi au niveau de la Ligue Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que Florian Coudert, qui s'occupe de développer, alors pas que le football féminin, mais le football en général. C'est vrai qu'il met beaucoup de moyens, il passe beaucoup de temps sur ce football féminin et les résultats sont là.
Allez, on passe à un autre sport. Alors, j'avais hésité à inviter Constant pour parler du match, bien sûr, du MVL de ce samedi qui arrive, gros match. Je me suis dit que je préfère le garder pour la semaine prochaine pour débriefer donc le match contre Avignon. Alors, ce week-end, c'était la coupe et le MVL est allé s'imposer contre Niort 3-7 à 0, 13-25, 21-25, 9-25. Alors, le MVL qui n'a pas tremblé. Bonne nouvelle avant ce match, hein.
Oui, un match quasiment de rodage contre une National 3, donc l'écart énorme, même si Niort
a quand même mis 21 points dans le deuxième set.
Fait figure d'épouvantail dans son championnat de National 3, mais face à un club qui joue les premiers rôles en élite, on sait que quand même au volleyball, alors au foot, c'est vrai que c'est plus facile, un club hiérarchiquement inférieur en coupe a toutes ses chances de faire tomber un gros. Au volley, c'est quand même plus compliqué, donc on savait que les Mandois étaient nettement supérieurs et ils l'ont fait voir aussi bien en marquant 3-0 que dans au premier et surtout au troisième set. 25-9 au volet, c'est quand même costaud, et donc bonne préparation pour ce match. Et puis tiens, quart de finale, on sait que Constant l'avait annoncé le jour où on avait réuni tous les coachs au commerce, ils visent cette finale.
Ça, clairement,
qui se joue à Paris.
À Paris, c'est à Paris.
Un lever de rideau de la finale des clubs professionnels. Donc, ça va être
assez. Direct sur l'équipe 21.
C'est ça. Donc, ce serait vraiment fabuleux, mais on est en quart de finale et il y a deux gros clubs, puisqu'il y a toujours Avignon, il y a Fréjus, et puis de l'autre côté, les clubs qu'on a rencontrés, Épinal, Saint-Jean-d'Illac. Donc, il y a encore du gros, mais tout est possible.
Il a lieu quand le tirage au sort? Je te coupe, Aurélien.
Dans les jours qui viennent, j'ai pas la date, mais c'est pas fait. Oui.
D'accord.
C'est pas fait. Ouais, c'est ça, ces quarts de finale de Coupe de France sont un peu le copier-coller des play-offs qui s'annoncent déjà en championnat, puisque, comme tu le disais, toutes les grosses équipes sont là, et donc ça va pas être aussi évident que ça d'aller chercher la finale.
Oui, parce qu'on appelle ça la Coupe de France fédérale, donc ça exclut les clubs professionnels, donc ça exclut la Ligue A et la Ligue B, qui eux ont leur Coupe de France à eux, et donc c'est pour ça que tu joues un lever de rideau de cette Coupe de France des clubs pro. Donc forcément, les gros clubs du troisième niveau, l'élite, elles sont là, et c'est vrai qu'ils sont hyper motivés pour faire cette finale à Paris.
On jouait à Niort ou c'était match
C'était à Niort.
Et là, comment ça se passe, quart de finale? Tu peux recevoir d'accord, c'est pas terrain
neutre. Par exemple, Avignon a battu Alès 3-1, Alès qui risque aussi de se qualifier pour les playoffs, et donc que tu risques de rencontrer en deuxième phase.
C'est intéressant, ça, à savoir.
Ils jouaient sur Avignon, et donc ils ont battu Alès 3-1.
Ils ont encaissé un set chez eux, quand même,
oui,
à noter.
Qu'est-ce qu'on réserve notre trajet pour Paris ou pas encore? On attend un peu
On attend le tirage.
Quart de finale,
on est qualifié pour les quarts.
Donc il reste deux matchs avant la finale.
Exact.
Ok, alors ben, on, comme il n'y a pas beaucoup de matchs au week-end, on va un peu se projeter sur ce match de ce samedi contre Avignon. Donc on le rappelle, Mende deuxième à un point de cette équipe d'Avignon que l'on va retrouver en play-off. C'est sûr, c'est assuré. Patrick, toi tu étais présent au match aller où le MVL a subi sa seule défaite de la saison. Qu'a-t-il manqué à Mende pour gagner ce match ?
Alors, il a manqué, je dirais, un peu d'expérience. Hein. Ça s'est vu parce que la spécificité de ce club d'Avignon, c'est vraiment un 6 avec des joueurs déjà... au moins 4 joueurs vraiment très expérimentés, avec un gros bagage, qui ont connu le monde professionnel pendant des années, en particulier le passeur Ricardo Martinez qui jouait à Ajaccio, qui est vraiment qui tient vraiment la baraque. Un central aussi qui a plus de 30 ans, qui joue à Orange en Ligue B. Et puis il y a ce phénomène de Nouvelle-Calédonie, le pointu, et donc qui avait fait un match monstrueux, et en plus nous, notre pointu Loïc Alphonse, qui était passé complètement à travers de ce match à Avignon. Donc là, si Loïc Alphonse poursuit sur sa lancée depuis quelques semaines, il va y avoir un duel vraiment impressionnant entre notre ami de Nouvelle-Calédonie avignonnais et donc notre Loïc Alphonse à nous. Et à mon avis, c'est quand même une des clés du match. Qui sait qui va marquer le plus de points, qui va un peu détruire ou déstabiliser la défense adverse. C'est un des gros duels de ce choc de samedi à 20h30 au Piencourt.
Voilà, j'allais te demander donc sur quoi va-t-on devoir s'appuyer pour gagner ce match. Donc déjà, le point de vue, c'est essentiel. Est-ce qu'il faut s'appuyer un peu plus sur les services, plutôt sur sa défense, plutôt sur...
Surtout, il faut être à 100%.
C'est vrai qu'il va falloir...
Non, mais on est précis dans cette émission, ouais. Laurent. Ouais, on est des spécialistes.
Il n'y a pas plus précis que 100%.
Non, mais moi je vois le duel de pointu qui pour moi sera essentiel. Et puis je vois aussi un autre duel, le duel des passeurs. Je vous répète, un passeur avignonnais... vraiment, vraiment de très haut niveau, hein, qui en plus a une rage et qui porte son équipe, vraiment un battant. Et donc, avec notre passeur à nous, Angelo Teno, qui est aussi le capitaine de l'équipe, il va falloir qu'Angelo se mette vraiment à ce niveau du passeur avignonnais, justement pour servir. On sait que la relation entre le passeur et le pointu est fondamentale. Hein, une précision qui s'acquiert tout au long des entraînements et semaine après semaine. Donc voilà, ces deux duos, pour moi, c'est un peu le point clé de ce match.
Laurent ?
Autre point clé, mais là je me fais pas de soucis, c'est le public.
Exact.
Il va falloir que le public mandoie, mais bon, comme d'habitude, mette l'ambiance et encourage son équipe, voir si elle peut-être un peu déstabiliser les services adverses, comme ça se fait régulièrement dans ce sport. Et ouais, je pense qu'il va falloir mettre le paquet au niveau du public.
Je vais venir avec un fumigène, tiens, ça peut les déconcentrer.
Non, ça c'est nul.
C'est interdit.
Ah ouais, c'est interdit.
Ils le font dans les salles de basket en Grèce ou en Serbie.
Ouais, mais là, c'est.
Non, mais ça va être très très chaud. Parce que je peux vous dire qu'Avignon pense à ce match depuis des semaines et des semaines. Mende aussi, il faut le reconnaître, pense à ce match depuis un certain temps. Donc on va avoir deux équipes hyper remontées, des joueurs qui se connaissent, parce que bon, dans ce milieu du volleyball, quand tu as côtoyé le haut niveau, ben, forcément tu te connais. Bon, on sait que nous aussi, au sein du MVL, on a des joueurs qui ont connu le niveau professionnel, donc qui ont croisé la route de ces joueurs.
Ouais, non, mais ce jour-là, il ne faut pas qu'ils tapent la bise avant le match. Hein.
Je peux te dire que ça va être chaud.
Ah oui,
entre les joueurs des deux équipes, ça peut même se chambrer. Du côté avignonnais, il y a certains joueurs qui sont pas mal de ce côté-là. On sait aussi que du côté mandois, alors là aussi, il y a les centraux, hein, parce que le central d'Avignon, donc qui jouait à Orange, est un chambreur de première. Et on connaît notre ami Fabre, notre central à nous, qui n'est pas manchot de ce côté-là. Donc,
et qui fait 2m10, donc quand tu te fais chambrer par un mec de 2m10,
voilà,
je pense
que ça va être chaud des deux côtés du filet.
Aurélien.
Non, juste pour en revenir, en Serbie au basket, généralement, dans les derbies aussi, ils ont les flingues et ils tirent en l'air. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas à Mende.
Fusil de chasse.
Ouais, c'est
bim
ça.
Une bécasse. Non, c'est interdit. Bécasse des bois jusqu'au 4 février à cause du jeu.
C'est interdit. Non, mais pour en revenir à ce que disait Laurent, effectivement, le public va être super important. Le match à domicile, là, c'est quand même l'affiche de cette première partie de championnat. Donc vraiment, il va falloir que tout le monde réponde présent.
Avec un gros DJ.
Et puis après, au niveau comptable, match très important aussi, parce que là, tu es sûr que contre ce match-là, tu vas garder les points. Qui vont te servir en play-off, puisqu'effectivement, t'es sûr que ces deux équipes-là vont aller en play-off.
N'anticipe pas mes questions, s'il te plaît, Aurélien. Mais tu as raison.
Donc c'est vrai que c'est un match hyper important et le gagner serait très bénéfique pour la deuxième partie de la saison.
Deux dernières questions. A-t-on les moyens de gagner ce match, oui ou non ?
Oui, on a les moyens de le gagner. Ça va se jouer sur des détails, à mon avis. Donc l'arbitrage aussi, hein, parce qu'au match aller, bon, même si tu perds 3-1, bon, tu peux quand même pas dire que c'est l'arbitre qui te plombe le match. Mais sur certains moments, sur certains sets où c'était vraiment serré, bon, il y a eu quelques décisions qui, vrai, qui étaient à l'avantage du club avignonnais local. Et d'après ce que je sais, alors à vérifier, d'après ce que j'ai compris,
c'est Turpin.
Non mais
qui vient.
D'après ce que j'ai compris, c'est le même arbitre, en l'occurrence, c'est la même arbitre qui a fait le match aller, qui serait désigné pour ce match amende. Ça serait complètement hallucinant de voir le même arbitre que
match aller. C'est peut-être pour se rattraper aussi.
Ça se fait jamais, ça, Patrick, que c'est rare.
C'est hyper rare que l'arbitre du match aller fasse le match retour
aussi. Ouais.
Mais peut-être que c'est la meilleure arbitre, donc elle fait les grosses affiches.
Peut-être, mais ouais. On ne sait pas. On
lui demandera. Elle vient en voiture avec les joueurs d'Avignon, d'ailleurs.
Arrête, Laurent.
Et donc, elle repart avec eux.
Arrête, Laurent.
Ça se passe bien. Non, moi j'avais une autre question à Patrick, puisque Patrick est un petit peu dans les petits papiers du club.
Des deux clubs d'ailleurs.
Des deux clubs. Est-ce que tu penses que Constant va choisir dans la continuité le même 6 de départ, ouais. À savoir qu'il avait fait tourner un petit peu, remettre des jeunes ces dernières semaines. Est-ce qu'il va reprendre des valeurs, j'ai dit entre guillemets, plus sûres
ou plus expérimentées.
Plus expérimentées, voilà, c'est plus joli. Pour ce match,
j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui dernièrement, mais à mon avis il va rester sur la même compo d'équipe qui est là depuis un certain temps, donc avec Mousset, Gueye en centrale et Anthony Chaillou en libéro. Je pense qu'il va faire comme ça. Après il peut nous réserver une surprise, mais je le vois plutôt rester sur cette continuité avec ces deux jeunes qui ont intégré le 6 de départ, le 7, puisque le libéro est le septième joueur qui rentre sur les postes qui sont à l'arrière. Donc je le vois rester avec ce 7-là.
Non, ce qui me fait penser à ça, c'est hier le match de Hand, on y reviendra après. Quand il y a beaucoup d'émotions, oui, sur ces matchs-là, oui, on sait que l'expérience ça compte, et on a bien vu que l'équipe de France de Hand a fait débuter le goal Thierry Omeyer, qui a beaucoup... Bon, l'expérience, n'en parlons pas, quitte à le faire sortir au bout d'un quart d'heure pour mettre le deuxième gardien, pour pas qu'il attaque ce jeune gardien, enfin plus jeune gardien, par voilà, avec l'émotion qu'on sait, que le public, etc., l'enjeu. Et donc je me disais peut-être que Constant allait choisir la même option.
Tu me demandes mon avis, je pense que non. Après, on verra samedi. S'il me fait mentir ou s'il reste dans sa philosophie depuis quelques semaines.
Dernière question concernant ce match. Si on perd, peut-on dire adieu à la montée ?
Si tu perds, à mon avis, tu perds tout espoir. Il y a une place, puisqu'il y a deux montées. Donc, à mon avis, tu ne pourras pas rattraper Avignon. Donc, tu te fermes une porte. Tu n'auras plus qu'une possibilité d'être dans
les... Tu peux passer par la fenêtre.
Voilà, dans les deux premiers.
Mais ça dépend si tu perds 3-0, 3-1, 3-2...
Si tu perds 3-0, 3-1, ça te fera 6 points, puisque tu as perdu 3-1. Ouais. Ça sera vraiment compliqué, à mon avis, de revenir sur Avignon. Si tu les bats, tu te laisses les deux portes ouvertes. Si tu perds, tu n'en as plus qu'une qui sera ouverte.
Merci Patrick. Dans les infos,
qui travaille chez Triba depuis quelques temps.
Spécialiste des portes et fenêtres. C'est ça. Dans les infos du volley, les M17 garçons ont disputé le 4e tour de Coupe de France au Puy-en-Cours avec une victoire contre Cagnes et une défaite contre 7. Les jeunes volleyeurs veilleront le 5e tour de cette Coupe de France. Info de Sport Nantes, encore une fois, tu étais au match,
non.
Julien?
Non, non, j'ai eu cette info. J'y suis pas allé.
T'as des informateurs.
Oui, surtout par... le site de la Fédé qui a vite mis le résultat, contrairement à certaines autres poules qui se disputaient le même jour. Mais j'ai surtout mis cette info par rapport au propos de notre invité de la semaine dernière, Antoine Couturier, qui avait dit que c'était un tour difficile, le 4e tour de Coupe de France, qui avait dit que 7 serait une grosse équipe. Bah, apparemment, ça n'a pas raté vu qu'ils ont perdu, mais Cagnes a certainement fait les frais de la qualité mandoise, puisque Mende verra le 5e tour de cette Coupe de France, et donc avec des équipes encore meilleures à affronter, et donc de l'expérience à engranger pour ces jeunes moins de 17.
juste une précision qui n'a rien à voir avec ce que Julien dit. Bon, on fait la promotion de ce match contre Avignon à juste titre samedi, mais il faut quand même souligner que malheureusement, alors peut-être qu'on peut dire malheureusement entre guillemets, mais à la même heure, dans l'autre gymnase bien sûr de la Vernède, il y a la rentrée de nos amis du MGC qui eux aussi, alors pas un match de haut de tableau, mais un match de bas de tableau, un match importantissime.
Tout aussi important.
Puisque le MGC, on le sait, est avant-dernier, et donc ils reçoivent Montluçon, qui est dernier au classement, donc victoire impérative pour cette reprise du championnat. Donc voilà, le public va se partager, chacun fera son choix. Deux matchs énormissimes dans les deux gymnases pour nos équipes de sport en salle.
Voilà, j'allais y revenir dessus aussi pour l'annoncer, mais c'est bien Patrick, tu l'as fait. On n'a pas d'infos sur le MGC concernant un peu cette longue préparation avec cette coupure. Avec cette coupure, voilà.
Ils ont fait un match amical contre une équipe de pré-national du Puy-de-Dôme. Alors j'ai plus le nom.
Et c'est pas Lyon.
Non.
C'était pas Cournon, d'ailleurs.
C'était une équipe. Bon, bref, c'est une équipe bien classée, un pré-national Auvergne, avec une belle victoire à 27-19. Donc, qui a permis de relancer un petit peu les organismes, puisque bon, faire que des entraînements, c'est bien, mais il faut jouer.
Très longue coupure. Hein.
Très longue coupure. Et donc, voilà, on croise les doigts pour que samedi, il y ait une victoire, une belle victoire.
Au niveau des blessés, ça revient un peu ou non, c'était des longues absences. Hein. Si, ça revient.
Oui.
Qui revient?
Il y a Olivier Cavalier, déjà, qui revient, le pivot.
Super.
Et puis après il y aura peut-être d'autres joueurs sur la base défensive, mais ça je veux pas m'avancer encore.
D'accord. On va pas tout dévoiler non plus. Hein.
Voilà.
Ouais. En tout cas, on espère qu'ils vont gagner ce match, comme tu l'as dit, hein, Patrick, importantissime.
Ah oui, victoire indispensable.
Indispensable.
On sait que le handball cette année, il y a un championnat très compliqué puisqu'il y a les trois derniers qui vont descendre. Donc on se rend bien compte de toute l'importance de ce match.
Non mais j'ai l'impression qu'au niveau du public, je me fais pas trop de soucis parce que ces deux équipes sont vraiment des équipes phares du sport mandois et il y a un tel engouement derrière ces deux équipes et même les trois avec le foot. Mais je pense que les gradins des deux gymnases seront bien garnis. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. Ouais.
Allez, on va faire une enquête. Patrick, tu seras où samedi?
Vous savez mon choix. Là, je vais aller au volet. Bon, j'étais au match aller, j'étais descendu sur Avignon, donc là. Je vais voir ce match. En principe, j'ai la famille qui monte passer le week-end exprès donc pour voir le match.
Bon,
qui sera plutôt du côté avignonnais. Hein, je le conteste pas.
Le repas de famille va être chaud alors.
Ça va être chaud. Moi, bien sûr, je supporterai notre équipe mandoise. Donc voilà, ça va être chaud aussi dans les tribunes et je pense qu'il y aura quelques personnes d'Avignon aussi qui vont monter. Donc ça sera aussi animé en tribune.
Toi, t'es pas là, Aurélien, on le sait, tu vas voir des gonzesses un peu partout, hein, on est d'accord, c'est ça?
Samedi, je pense que je serai plutôt dans un bar en train de regarder Angleterre-France.
On va en parler aussi.
Tu pourras le faire parce que je crois que le match est à 6h, donc même si tu avais été là, tu pourras quand même aller au bien court après.
Tu n'as pas d'excuse.
J'ai regardé ça, je crois que le rugby est à 6h, donc ça se laisse.
C'est bon, ça passe.
Parfait, pour ouais, l'apéro avant le match, là, voilà. Hop, une petite pinte.
Exact.
Julien, tu seras où?
Je pense que j'irai à Piancourt voir le volley, c'est un match quand même... Parce que même si le match de hand pour le MGC est important, il n'est pas encore décisif et crucial, j'ai envie de dire. Tandis que là, le volley,
c'est crucial, ouais.
C'est très important.
D'accord. Laurent?
Moi, je serai au handball parce que c'est un match décisif et crucial pour l'équipe du MGC.
Alors que pour le MBL, c'est un match qui est décisif et pas crucial.
Non, c'est pas pareil parce qu'entre un enjeu de monter, c'est chouette, c'est très bien. Et un enjeu pour pas descendre, c'est pas pareil. Je veux dire, t'as moins les fesses serrées à la fin du match, quoi.
C'est pas la même tension.
Ouais. Ouais, c'est pas la même tension. Donc, je serai au handball.
Mais moi, je serai au hand avec toi pour faire deux partout. Hein. Comme ça, on est deux au volet, deux au hand et Aurélien dans les bars.
Je serai tout seul.
Non, j'y serai.
Il a pas fait un match depuis
3 ans. Donc,
qu'est-ce que j'ai fait cette année? Si, j'ai fait le hand les moins de 17 cette année.
Ah oui?
Ouais, ou moins de 16.
Ah oui, d'accord. Ouais.
oui, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. C'est étrange, mais c'est comme ça. Il est déjà 1h, on va se dépêcher. Un mot sur le trèfle lozérien, les 300 places mises à disposition pour le 31e trèfle lozérien ont été attribuées en moins de 4 minutes samedi, comme d'habitude. Alors, ils étaient 2500 à tenter leur chance pour 300 places, c'est énorme, hein, ça a toujours autant d'engouement. Alors, l'AMV propose un jeu concours permettant de gagner 3 places VIP, donc il faut vous rendre sur internet jusqu'au mercredi 1er février 20h. Il y aura 3 gagnants par tirage au sort aléatoire pendant les 4 jours du jeu. Il a commencé hier. Voilà, si jamais vous voulez. Un mot sur le Gévauda Trail nocturne qui a eu lieu samedi à Montroda. Donc dans la nuit, dans le froid et la boue, la pluie, 203 coureurs qui se sont affrontés, c'est quand même énorme, hein, sur des parcours de 7 et 14 kilomètres. À l'issue d'une course de moins d'une heure, c'est Maxime Brajon qui devance de quelques secondes Nicolas Rambier en catégorie senior homme sur le 14 kilomètres. Et Edwidge Mour.
Alors une course de moins d'une heure pour Maxime Brajon, hein. Les autres ont mis beaucoup plus d'une heure.
Ah oui, 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 oui. Non, c'est sûr.
Oui, j'en connais.
Ouais, moi j'ai mis 1h07. Par exemple,
ah ouais. Ouais, pas mal, alors, hein.
J'étais pas mal.
7 jours.
Edwige Mour, Gintran arrive première devant Elsa Lombard sur cette même distance en senior femme. A une info billard, on n'en parle jamais de billard, au moins quand il pleut, quand il neige, ils peuvent jouer. Si, c'est du sport. Trois barres se qualifient pour la finale du championnat d'Auvergne de billard à Vichy le 19 février. Bon, je m'arrête là, voilà, trois barres parce qu'on a beaucoup d'actualités sportives, nationales, internationales, beaucoup de sons à réécouter. Allez, je t'ai mis un petit Iggy Pop parce que je sais que t'aimes
ah ouais,
bien
génial.
Ça.
Ouais, ouais,
avec
bien.
Passenger, on se retrouve de suite après.
Bright and hollow sky. It is a city. stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la.
Allez, on est reparti. Ouais, mais très bonne. Hein, ouais. C'est l'essentiel.
Première minute, ouais. Plus c'est long, plus c'est bon, de toute façon. Ouais. Hein, on le
c'est
sait,
ça,
hein.
Mais ça, Laurent, il le sait pas, on lui a jamais dit. Beaucoup d'actualités sportives nationales et internationales, et ça tombe bien. Donc, Laurent, tiens, on va rester avec toi. Est-ce que tu veux qu'on commence par parler de Miss Univers, toi qui es spécialiste des Miss?
Bon, on peut en parler rapidement, mais bon, mais
ah, une Miss France quand même.
C'est Miss France
depuis 1950 et quelques.
Hein. Ouais, c'est 53, Miss ouais. Univers, voilà.
Depuis Brigitte Bardot, on n'avait pas gagné le concours.
Ah, voilà, c'est pas Brigitte Bardot, mais
depuis que Saint-Tropez est arrivé, a été créé.
C'est ça. Allez, on va parler des championnats du monde de handball et la victoire de la France 33-26 contre la Norvège. Et bien que certains dans cette émission, c'est-à-dire Julien, Aurélien, Patrick et moi, voyaient dès le début de la compétition la France gagnante. Elle aurait pu perdre trop d'assurance dans cette équipe. Alors, on va écouter une petite bande de son. Non, voilà. On est champion du monde, on est d'accord, Laurent?
Non, franchement, je ne pense pas. Parce que, non, je vais vous dire pourquoi. Il y a trop d'assurance dans l'équipe. Là, on gagne les matchs trop facilement. Et quand ça, et quand tu auras un petit grain de sel, là, je ne sais pas, admettons un quart, on se tape l'Espagne ou je ne sais pas qui, là, une belle équipe. L'Allemagne. Si ça tourne pas super bien, est-ce qu'il y aura le mental nécessaire parce que le handball ça joue beaucoup au mental et je suis pas certain que l'équipe de France l'aura. Voilà. Donc
on ne gagnera pas bien,
mais ça va être compliqué.
Ça c'est parfait, ça l'enregistrement super, je le ressors dans pas longtemps.
Non, pas là. Non,
c'est
non,
dans
non,
la boîte. Non,
ah, ouais. Bien sûr, je belle équipe la Slovénie. Je les ai vus jouer là dans la semaine. Je me rappelle plus. Il faut faire attention quand même la Slovénie.
Un petit grain de sel qui vient rayer la machine. Excellent, Laurent.
Non, mais ce qu'il a oublié, c'est il parlait d'assurance, mais c'était assurance tout risque.
Tout risque,
ouais. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, t'as vu, j'ai laissé la Slovénie qui quand même termine troisième. Bien vu pour la Slovénie.
Ouais, ouais. Ouais, belle équipe.
Ouais, mais enfin, en attendant, t'as dit encore une fois n'importe quoi. Réservoir
non, mais il
n'y
a pas eu de grain de sel, mais s'il y avait eu un grain de sel. Vous êtes gentil, mais.
S'il y avait eu trop d'assurance, on ne sait jamais. Ouais, hein, ouais. On aurait pu lâcher, avoir peur. Oui, Patrick, tu voulais intervenir là.
Non, mais.
C'est pas quoi dire à des bêtises comme ça.
Tu parlais de réservoir.
Voilà, un réservoir vraiment, vraiment impressionnant.
C'est la force, hein. C'est la force de ce handball français qui apparaît comme l'équivalent de néo-zélandais au rugby. C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande est capable de sortir génération après génération et de maintenir le plus haut niveau mondial. Ben, le handball français arrive à faire la même chose. Et alors, après les commentaires d'après-match. Certains spécialistes ont dit que dans 2, 3, 4 ans, il y a à avoir 3, 4 joueurs qui sont aussi forts, si ce n'est plus que ceux qui sont champions du monde, en particulier un gardien qui a 18 ans et, d'après ce que tout le monde dit, plus fort qu'Omeyer à
cet âge-là.
Oui, mais
d'ici là, il en aura 22.
Donc, bon...
Et donc, Omeyer 44, hein,
ouais,
c'est,
non,
pas...
mais c'est pour ouais. Ça. C'est pour ça qu'il y a un renouvellement, et on l'a vu cette année... Bon, donc, ça va continuer. Je pense que ça va continuer.
À noter que oui. Le MGC avait ouvert le gymnase pour ce match. Il y a eu énormément de monde qui est venu. C'est une très belle opération qui a été proposée par le MGC. Aurélien, ça fait 15 ans que quand je regarde l'équipe de France, je me dis, mais ce Guigou, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pas possible. Et encore hier, encore une fois, j'étais au téléphone avec des amis. Je leur dis, mais encore Guigou, quoi. C'est fou, on n'en parle pas de ce joueur.
À chaque fois qu'il rentre, il est exceptionnel. C'est vraiment un joueur qui apporte un plus quand il rentre. Et c'est vrai, comme tu dis, depuis le temps qu'il est en équipe de France, il est toujours là, il est toujours à son niveau, un niveau équivalent depuis tant d'années. Donc, mes petites pensées à Christophe, qui était avec nous de Midi Libre, qui était avec nous au début de l'année, et dont c'était le joueur préféré, il arrêtait pas de nous en parler.
Il nous parlait de Porte aussi, qu'on attendait.
Qui a été très fort aussi.
Et qui était très bon hier.
Voilà, c'est vrai que Valentin Porte, à Montpellier, n'a absolument rien fait depuis le début de la saison, et donc on chambrait notre ami Christophe, à qui on fait un coucou, et ben là, sur ce championnat du monde, on a vraiment vu son niveau, puisque aussi bien en finale que sur les tours précédents, il a fait un très très gros mondial.
Un mot sur Dinard. Dinard arrive, il reprend cette équipe. On se dit c'est toujours compliqué, première expérience en tant que premier coach. Et ben, finalement, très bon coaching. Hein.
Alors Dinard a eu une déclaration qu'on peut interpréter de plusieurs façons.
Polémique.
Non mais c'est vrai, ça fait un peu du bruit. Il a dit en fait que c'était un cadeau empoisonné qu'on lui avait fait de prendre cette équipe juste avant le championnat du monde en France, sous-entendu que si la France n'avait pas remporté ce championnat, il se serait fait démonter et certainement que sa carrière comme entraîneur aurait été terminée immédiatement. Donc on voit quand même toute cette relation, et après si je finis par ça, on voit aussi Onesta, hein. Onesta qui a eu des déclarations aussi très très ambiguës en disant ben voilà qu'il se sentait un peu à l'écart, que ça avait été très compliqué pour lui de suivre ce championnat des tribunes, donc sous-entendu qu'il aurait aimé être plus proche du terrain. Donc on voit quand même que le retrait d'Onesta, alors que la version officielle du retrait d'Onesta, c'est que lui a choisi de se mettre en retrait, je pense plutôt qu'une majorité des joueurs de l'équipe de France ont demandé que Onesta se retire et donc que Dinard prenne les clés du camion.
Il a des infos dessus, Laurent ?
Non, j'ai pas d'infos, mais je me disais que Dinard, il est gonflé parce que bon, tout le monde aimerait récupérer une équipe qui
mais l'entraîneur du Kazakhstan a dit c'est un cadeau empoisonné, je récupère l'équipe du Kazakhstan.
C'est vraiment un cadeau empoisonné.
Une équipe qui finit finaliste des Jeux Olympiques. Donc il s'était déjà un peu fait la main aux Jeux Olympiques, notre ami Dinard et son suppléant Gilles.
Alors, non, mais son prénom. Il faut comprendre.
Mais
t'es obligé d'être gagnant, tu peux pas être deuxième, troisième.
Donc ça veut dire que soit il le récupère après un championnat du monde, soit après un Jeux Olympiques ou un Euro. Donc il peut pas la récupérer autrement l'équipe, quoi. Qu'est-ce qu'il attend?
Il aurait récupéré l'équipe après ses championnats du monde avec une France championne du monde.
De la Belgique,
est-ce que ça aurait pas été un cadeau empoisonné alors dans ces cas-là aussi de prendre une équipe championne du monde?
Par contre, c'est un très gentil garçon et il a dit une phrase. Il a expliqué son fonctionnement. C'est de rester au bord du terrain le plus zen possible par rapport à ses joueurs. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et tous les coachs, pas que handball d'ailleurs, pourraient en prendre de la graine. Je trouve que c'est intéressant de montrer une image relax à ces joueurs plutôt qu'avoir un coach tendu qui crie après tout le monde.
Ça dépend des joueurs aussi. Il y a des joueurs qui aiment bien qu'on les pousse.
Dinard, il les pousse, ces joueurs. Il n'est pas exubérant.
Regarde au foot, t'as des coachs exubérants comme à Chelsea, comme dans d'autres clubs. Comme Simeone, et ça marche plutôt bien aussi, hein. Aurélien.
Non, juste pour en revenir sur Dinard, je pense que quand même c'est un très bon coach, un très bon meneur d'hommes. Il y a beaucoup de joueurs qui le connaissent, donc je pense qu'il y a une proximité aussi qui se fait. Et pour en revenir à ce que disait Patrick, moi j'ai été étonné par rapport à l'éviction d'Onesta. On attendait avant cette finale, que si la France était championne du monde, tout le monde disait que Onesta allait venir sur le podium, ça serait sa fête, tout le monde allait le remercier, etc. Et j'ai trouvé, il a été étrangement absent.
On l'a pas vu sur
le podium et pas dans les célébrations. Juste, je crois, il est venu pour la photo à la fin et puis il est vite reparti.
Mais il a été intelligent de pas venir, c'est surtout ça, quoi. Parce que c'est pas sa victoire à lui.
Mais c'est pas le coach.
Ça aurait pu faire une sorte de dommage, parce que c'est quand même la majorité des joueurs qui étaient champions du monde, ils ont fait leur parcours avec lui. Donc il y a quand même les Abalo, les Sorrendo, les Omeyer, les Guigou, etc. Les deux frères Karabatic. Bon, là, ils ont une longue histoire en commune avec Onesta.
C'était ce qui s'était passé avec Constantini, justement. Ouais. Quand Constantini avait lâché l'équipe de France, ils avaient été champions du monde, il me semble aussi. Et pareil, il avait appelé justement pour lui rendre hommage, pour faire une espèce de continuité. Et là, ça s'est pas passé.
Tu fais bien de préciser, Aurélien, c'est vrai.
Si on parle d'hommage, hier, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est le...
C'est Miss Univers.
Non, c'est les... sur les deux dernières minutes, j'aurais bien aimé que Thierry Omeyer rentre sur le terrain. Il y avait beaucoup d'avance, il n'y avait aucun risque. Pour que le public du stade lui fasse un hommage, l'hommage qu'il mérite, et puis que peut-être comme ça il aurait annoncé sa retraite de l'équipe aussi, quoi. Et
pourquoi tu veux qu'il fasse sa retraite? On est champion du monde, vous cherchez des polémiques, mais c'est pas possible. Julien, élève le débat un peu.
Ma jeunesse va amener une touche d'optimisme autour de cette table, parce que j'ai l'impression là depuis tout à l'heure, on parle de problème presque dans cette équipe. Non, moi, ce qui m'impressionne vraiment dans cette équipe de France de hand, c'est que les générations passent et on reste au top, quoi. C'est vraiment ça qui est impressionnant. Les joueurs arrivent, ils arrivent à se mettre au niveau des plus anciens. Et je trouve que là, c'est encore plus criant donc cette année, c'est que la transition se fait en douceur, en fait. Il y a bien sûr les Karabatic, les Guigou, les Abalo qui sont là pour encadrer. Mais on voit que petit à petit, la jeunesse arrive. Fabregas, Nedim Remili, qui a été élu dans l'équipe type de ce mondial. Et même au niveau du staff, quoi, même si Onesta, bon, avec tout ce qui a pu se passer, il est là, sans trop être là, mais il y a quand même l'ombre d'Onesta qui plane au-dessus
Parce qu'il est quand même directeur...
Manager général. Ouais.
Manager
ouais.
général, donc...
Donc il y a son ombre quand même qui est là. J'imagine qu'avec Dinard et Gilles, ils doivent énormément échanger. Donc c'est surtout ce point-là, moi, qui m'impressionne, c'est cette jeunesse qui arrive à faire douter un petit peu, finalement, cette expérience des Karabatic et des gens qui sont là depuis plus longtemps, tout en étant accepté quand même par cette vieillesse qui... Enfin, cette vieillesse, je me comprends. Hein, ouais.
Fais
attention.
J'ai un regard noir, là.
Ils n'ont pas l'âge de Laurent.
voilà, ces joueurs plus expérimentés qui font pas la gueule, quoi, et qui se sont pas non plus menacés par la jeunesse qui arrive, et qui se disent, ben voilà, on va les encadrer pour continuer à prouver que cette équipe de France de hand peut rester au top encore pendant plusieurs années.
Alors, un mot sur la Norvège quand même, messieurs, parce que il faut quand même tirer le chapeau à cette équipe de Norvège qui a bénéficié d'une wildcard pour se qualifier, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas qualifiés avant le tournoi, et vu qu'ils ont terminé quatrième au dernier championnat d'Europe, il me semble, ou peut-être Jeux Olympiques, je sais pas, on les a invités, et finalement, cette jeunesse norvégienne, on parle de jeunesse, hein, on a vu ce goal qui est extraordinaire, qui termine seconde de ce tournoi, bravo hein, à ce petit pays qui est un grand pays de hand, mais un petit pays en population.
Un grand pays de hand féminin.
Féminin.
Puisque l'équivalent des Français au niveau masculin, mais au niveau féminin, c'est la Norvège, qui gagne quasiment toutes les compétitions. Bon, c'est vrai que la Norvège a une bonne équipe, on l'a vu, des arrières-gauchers qui nous ont fait mal en première mi-temps. Mais bon, moi, pour moi, la meilleure équipe qu'on a affrontée, c'est la Suède. Et en quart de finale, on s'en sort parce qu'on fait un match, à mon avis, meilleur que ce qu'on a fait aussi bien en demi qu'en finale. Donc on a su élever notre niveau de jeu lors de ces quarts. Et puis la Suède qui a cafouillé un peu quelques ballons sur la fin parce qu'on les avait épuisés. Mais à mon avis, la Suède était plus forte que la Norvège.
La Suède qui avait elle aussi un excellent gardien.
Tout à fait.
Blond, la cheveux blonds. Ouais. Ouais.
Un blond, oh, c'est étonnant. Ouais. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a que des excellents gardiens. Hein. Tu vois pas.
C'est vrai. Tu peux pas exister si tu n'as pas un gardien. C'est vrai que c'est un sport comme le hockey sur glace.
Et en fait, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faudrait que Thierry Omeyer, au bout d'un moment, Patrick, d'un super gardien qui a 18 ans. Ça serait dommage que le jeune, qu'il puisse pas progresser plus à cause de.
Non mais tu as raison, mais
un gars qui vient juste faire le
ça viendra.
Moi je fais confiance, entièrement à Dinard qui a fait quand même des choix hyper forts tout au long de la compétition. Tu parlais d'Omeyer, mais Omeyer remplaçant toute la demi-finale. Ouais. Donc on l'a vu en finale, il fait le début de match, voilà, ça stoppe pas, boum, au bout d'un quart d'heure il le fait sortir. Donc il a eu aussi bien pour Meyer, mais aussi pour d'autres postes. Abalo qui est un joueur fabuleux, bon mais Abalo n'a pas commencé comme titulaire la finale et certains matchs aussi. Je me souviens la Slovénie Karabatic qui était pas au niveau de la finale. Un peu en échec, au bout d'un quart d'heure, Karabatic remplaçant. Oui, oui. Tu joues quand même une demi-finale de mondial à domicile. Donc Dinard a su faire les choix, il a su voir qui était en forme dans son effectif, il a fait de cadeaux à personne. Je dis chapeau et il saura pour les sélections futures, il saura dire aux joueurs maintenant votre temps est passé.
C'est quoi les prochaines échéances?
C'est le championnat d'Europe l'année prochaine.
Allez, où? En France.
Je crois que c'est au Danemark.
En Norge.
En Norge.
Il est marqué Norge sur les. Laurent m'a dit je comprends pas, on joue contre Norge, c'est qui? On va parler de foot. Hier, j'ai regardé Monaco-Paris à la 90e minute. Je me suis dit,
92e,
mais quel génie ce Laurent. Après ce résultat, je ne vais pas pouvoir passer mon son sur le handball. Et c'est pas possible. Mais en fait, non. Si je peux le passer, je l'ai passé. Et on écoute les pronostics de la semaine dernière. Paris Saint-Germain reçoit Monaco.
2-1 pour Paris.
Très bien. Aurélien.
Un partout.
Un partout, on prend pas de risque. Ouais. Patrick.
2-1 pour Monaco.
Ouh là là. Allez Antoine, vas-y, passe devant Laurent et Aurélien là, avec un point marqué.
Ouais, moi je dirais 3-2 pour Monaco.
3-2 pour Monaco. Non, c'est à moi, Laurent. Moi, je vais dire un 2-2. Ça n'a pas été dit. Tiens. Allez, Laurent, casse la baraque.
Et donc, je vois bien 1-0 pour le PSG.
Allez, dis-nous le buteur. T'aimes bien.
Le buteur, ben, c'est Cavani, bien
sûr. Oui, évidemment. Ah, ça aïe, 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 aïe,
aïe, aïe, aïe. Une minute de trop.
Et oui, ben non. Alors, PSG Monaco, un but partout. Cavani à la 81e contre Silva à la 92e. Bravo, Aurélien. Donc, on va récapituler les scores. Patrick, 3 points. Aurélien, Julien et moi-même, un point. Je m'arrête là. Vous avez tous compris.
À une minute près, je passais quand même second. Quoi.
Non, mais le retour du capitaine, attention, ouais. Attention, hein, il a retrouvé son fluide.
Il paraît que le plus dur, c'est de commencer, voilà. C'est de marquer le premier point.
Ouais. Tu sais que quand il commence, il enchaîne, lui. Hein. Mais là, on a plein de matchs.
Ce week-end, il y a un Saint-Étienne-Lyon.
Et il y a Nice-Monaco aussi. Hein. Ça va être dur.
Monaco-Nice.
Il y a Angleterre-France aussi. Yes. Le rugby à pronostiquer en points, c'est compliqué. Un peu compliqué. Rapidement sur le foot, un très bon Monaco, un Paris qui joue pas vraiment en équipe mais qui fait le boulot.
Un match fermé, un peu cadenassé, qui s'est débloqué sur la fin, un match nul logique. Monaco, belle équipe, en particulier les deux milieux défensifs que je prends immédiatement, Fabinho et
Bakayoko.
Bakayoko.
Excellent, excellent.
Voilà, une paire vraiment impressionnante. Qui ferait énormément de bien à Marseille.
Oui, ben en parlant de transfert, Marseille vient d'acheter Dimitri Payet, 30 millions d'euros. Payet, 29 ans, bientôt 30, qui va retrouver l'OM où il a évolué entre 2013 et 2015. On s'en rappelle, c'est le plus gros transfert de l'histoire française devant Lucho González.
Pas l'histoire française, l'histoire de Marseille.
De l'OM, pardon, devant Lucho González. 30 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, est-ce que c'est pas un peu cher là? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Qui veut parler? Julien. Allez, lui qui est pas supporter marseillais, il va nous dire.
C'est pour ça. En tant que supporter niçois, je suis tout à fait neutre. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le voir au-delà de l'aspect financier comme une opportunité, tout simplement, puisque c'est un mercato d'hiver, les opportunités sont très rares. On crache entre guillemets sur les 30 millions de paillettes à Marseille, mais est-ce qu'on a entendu parler des 40-45 millions de Draxler à Paris? Non.
Ah mais c'est, notre, pris... c'est, ouais, c'est ouais, peut-être d'accord. Un autre niveau, hein. Enfin, je sais pas.
C'est peut-être un autre niveau, mais
il a 22 ans, Draxler.
C'est une opportunité, voilà. Bon, après, il y a le fameux OM Project Champion. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à tout pour...
Non, OM Papy Champion.
Est-ce qu'ils sont prêts à tout pour...
Papy, quand même.
Non, mais Evra, oui.
Ouais, 30 millions, moi, je vois plus ça comme une opportunité sportive plutôt que financière.
Alors, Laurent me disait un truc intéressant avant que l'émission commence, en parlant d'Evra Payet, qui était l'aile de l'équipe de France au dernier championnat d'Europe, qui est meilleure que quelle aile actuellement?
Bounassar et Doria. Voilà. Ouais. On proposait Bounassar et Doria.
C'est pas faux.
Là, ça va être Payet,
Evra.
J'ai une proposition. On peut prêter Rekic à Montpellier, parce que vu le niveau de la charnière centrale montpellier,
je pense que
Rekic peut monter le niveau, donc on peut prêter Karim Rekic à Montpellier.
Arrête Patrick, Congré est absent, c'est pour ça. Mais Rekic, oui non, Rekic personne le veut. Hein.
Ah oui, je te confirme.
Ouais, et dans le prêt, on peut y rajouter Sakai. Mais
Sakai, j'aime bien, moi. Quand il veut, il vient à Montpellier, Sakai.
Ouais, bon. Ah. Non, mais ce qu'il faut, pour être un peu plus sérieux au niveau de Payet, quand tu es repreneur de l'OM, bon, tu viens des États-Unis, tu annonces quand même un projet ambitieux, tu es obligé de marquer un peu le coup. Et justement, aussi bien psychologiquement, avec tes adversaires, dans ce monde du football, il faut que tu mettes un peu des billes. Et donc, 30 millions d'euros sur Payet, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a aussi le terrain, mais pas que. Il y a, on le sait, le marketing, et il y avait à peine 28 000 personnes dans les travées du Vélodrome contre Montpellier. Ben, tu peux espérer que Payet, ça va faire 5-10 000 de plus au prochain match, parce que Payet, on le sait, est adoré, adulé même par les supporters marseillais. Donc voilà, c'est un tout, donc il faut voir la globalité de la décision, et en plus, vu les joueurs qu'on a à ce poste-là actuellement, il n'y a pas de souci, vive Payet.
Non, Laurent, c'est fini, on passe à un autre sport. Non,
attends, j'ai vu que Toulouse... Alors, je vais demander à Patrick.
Delors,
Toulouse recrute un Didier Delors pour 6 millions d'euros.
Oui.
très bon attaquant, Andy Delors quand même. Est-ce qu'il serait, il aurait pas été mieux à l'Olympique de Marseille quand même, avec sa grinta, sa,
qu'est-ce qu'il a prouvé Delors,
un peu chelou là, tout ça,
il a mis le but qui a fait démissionner Bielsa, puisque oui, c'était un OM Kahn, il tire de 30 mètres, poteau transversal en 30, et Bielsa, en conférence de presse annonce son départ, donc ce qui est quand même pour un supporter marseillais un jour noir de ces 10 dernières années. Bon, tu es pas d'accord avec moi, je sais, mais bon, pour la majorité des supporters, bon voilà, on est quand même toujours sous le choc de cette démission de Bielsa. Mais bon, oui, Andy Delors, 6 millions pour être le complément de Bafé Gomis.
6 millions, c'est Codal,
c'était pas mal.
Je pense que c'est un peu un Alessandrini Delors, tu vois. Tu te dis, ouais, gros potentiel, ça va arriver, il a fait une super saison, et au final, il prend 30 kilos, il court pas, quoi.
C'est un sudiste, chez nous, là, il aurait été.
Moi, j'ai l'impression, pour en revenir sur Delors, j'ai l'impression que les mecs, il faut qu'ils partent à l'étranger pour que de suite, en France, on se rende compte qu'ils soient bons.
C'est le mec qui fait longtemps
qu'on le sait, nous. Ouais, mais le mec, il était à Caen, il est super
tellement
bon
qu'il jouait pas au Mexique, hein, quand même. Hein. Il était remplaçant au Mexique. Hein. Alors ça, c'est un super joueur. Hein.
Il sortait de Caen. Personne l'a voulu. Il a été obligé de s'exiler au Mexique. Et là, il revient 6 mois après parce que justement, le fait qu'il soit parti à l'étranger, j'ai l'impression qu'il prenne de la valeur.
En train de faire un mur en ce moment là, ça lui plaisait pas.
Ça lui plaît pas. Peut-être qu'il va pas pouvoir arriver jusqu'à Toulouse. Hein. Ouais. Vite quelques infos. Roger Federer décroche le titre de l'Open d'Australie en battant Nadal, pendant que Venus Williams gagne Serena Williams.
Non, donc c'est Serena qui a
battu. Ou Serena gagne Venus. C'est retour vers le futur. On revient, voilà. Un scandale. Rudy Gobert, on en a parlé, n'a pas été choisi pour le All-Star Game. Oui, on n'est pas content. Pas d'accord.
Pas content.
Les demi-finales.
C'est le protectionnisme de Trump, ça. C'est il ça. Il fallait pas voter pour un Français. C'est
exactement. Les demi-finales de la CAN, Burkina Faso, Égypte et Cameroun, Ghana. Qui est encore en lice? Alors, Aurélien, tu avais parié le Ghana.
C'est
tu
ça.
Tu as encore gagné.
Je suis toujours là.
Moi. Laurent, Burkina Faso.
Ouais. Moi, j'ai eu au Sénégal, mais.
Sénégal, t'es éliminé. Moi, je suis éliminé avec l'Algérie. Et
piteusement éliminé au premier tour avec la Côte d'Ivoire.
Ouais, c'est ça. On est tous éliminés. Ok, on a bien fait le tour.
Si tu vois les joueurs éliminés dans ces équipes africaines, il y a une déception qui est totalement hallucinante. Bon, j'avais parié sur le Sénégal, mais donc c'est l'attaquant de Liverpool là, qui fait un malheur cette année avec les Reds, donc qui rate le penalty puisqu'il y a 5-4, et donc il rate le péno. Il n'arrive même plus à marcher. Ils ont été obligés de le porter pour quitter le terrain. Il était dans un état cataclysmal.
C'est terrible,
c'est hallucinant.
Bon.
Il y a des images vraiment fabuleuses pendant ce CAN.
On est en retard, vite fait. France Angleterre, est-ce qu'on peut gagner?
Justement, la finale de la CAN, ça a lieu dimanche, donc lundi prochain, on saura qui de Laurent ou moi aura gagné le point.
Ou personne.
Ouais,
parce que je ne sais pas. Parce que ça peut être l'Égypte aussi. Hein. L'Égypte,
pour la CAN, ça compte un point, la victoire ou...
Ça compte un point. Tout compte un point. France-Angleterre, tournoi des destination. Angleterre-France. On peut gagner le tournoi ou pas
Laurent a répondu.
Allez, c'est bon.
Ça va être chaud.
On parie sur qui le derby Saint-Etienne-Lille ou sur Monaco-Nice?
Lyon.
Saint-Etienne, allez, on va parier sur le derby, c'est c'est mieux.
Saint-Etienne-Lyon.
Saint-Etienne-Lyon, qui c'est qui a répondu juste? C'est Aurélien, donc on va pas le faire débuter. C'est à Saint-Etienne?
Oui.
Ils ont fait quoi, Lyon, là? Ils ont fait un match.
Ils ont perdu
contre Lille.
Et Saint-Etienne a gagné.
A gagné 3-0.
Ok, donc je commence. 2. Non.
Quoi?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Saint-Etienne,
j'ai lu dans tes yeux.
Ah, j'ai eu du stress, là. Non, Saint-Etienne va bien entendu gagner 1-0. Laurent.
0-0.
Ok.
Je voulais dire 0-0, mais je vais garder 0-0.
Tu m'en es risqué.
Là, tu es mort. Hein.
Il a pas compris.
Je veux pas que je le double.
J'essaye d'amener Laurent
je
avec moi.
Pas que je double. Il y a un point. Mais...
Ok, allez. Champion.
Moi, je dis 1-1. Ça m'a porté chance le lundi dernier. Donc, je redis 1-1.
Ah, non, c'est belle stratégie.
2-1 pour les Verts.
Allez, on verra ça la semaine prochaine. Merci les gars, on va essayer d'avoir Constant pour débriefer ce grand match.
Ça dépendra qui est l'arbitre,
le rappelle,
si je reviens à ce match. On sait toujours pas. Si c'est M. Turpin.
On va voir ça. Allez, ciao les gars, à lundi prochain.
Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Utah Diapéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.